to get down.
Bonjour à toutes et à tous, installez-vous, c'est l'heure de votre thérapie pop.
Paid the cost to be the boss. Paid the cost to be the boss. I paid the cost to be the boss.
Chers amis, bienvenue à bord pour ce nouvel épisode de Thérapie Pop, l'émission qui décrypte pour vous la musique contemporaine des années 50 à demain. Nous sommes comme chaque semaine ravis de vous retrouver pour 26 minutes de culture musicale. Et pour mon plus grand plaisir, mais également pour le vôtre, c'est Gauthier qui nous prendra par la main aujourd'hui. Salut Gauthier.
Salut Théo, et pour mon plus grand plaisir aussi, puisqu'on va parler d'un grand homme.
Et voilà, vous le savez, c'est le dernier épisode du mois, et donc c'est jour de saga, et donc cette année, pour faire plaisir à Gauthier, la saga de cette saison 2024-2025 est consacré à l'immense David Bowie. Lors de l'épisode précédent, nous vous avons conté les débuts du jeune Bowie qui s'appelait encore David Jones. Nous vous avons expliqué l'origine de ce regard hypnotique et on a vu que le futur Bowie naviguait de groupe en groupe avant de s'apercevoir qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Dans l'épisode de ce jour, on poursuit les prémices de notre aventure bowienne en s'aventurant dans les premiers albums. Alors on va parler conquête spatiale bien entendu, on va parler de ses premières conquêtes féminines également, et on fera la connaissance de son producteur historique Tony Visconti. Et afin de se plonger dans le bain directement, je vous propose qu'on s'écoute Let Me Sleep Beside You, le premier titre du duo Bowie-Visconti, que l'on retrouve d'ailleurs sur aucun album avant une compilation dans les années 70. Ouais. On s'écoute Let Me Sleep Beside You.
Threading daisies lie behind you now. Don't return to fields of green where rainbow secrets were told. This your ragged doll with all the toys and fakes and beads. I will show you game where the winner never wins. Put your your mother wore. Let me sleep beside you. Dun 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 dun. Lock away your childhood and throw away the key. For now the streets and city sounds will burn your eyes as coals. You shall drink the oldest wine and velvet skies will linger. Child, you're a woman now, your heart and soul are free. I will hold a lighted lamp and we shall walk together. Let your hand down where the dress your mother wore. Let me sleep beside you. Dun 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 dun. Your darkened eyes roam the street, but your lips are more in all history. You could not imagine that it could happen this way, could you?
Vous êtes bien sur Radio Présence et vous écoutez Thérapie Pop. Aujourd'hui, c'est jour de saga et la saga de cette année, c'est donc David Bowie. Alors Gauthier, on va découvrir avec toi les débuts solo de David Bowie et ça commence en 1967.
Ça commence le 1er juin 1967 avec son premier album, sobrement intitulé David Bowie. Alors, je tiens juste, Théo, à préciser que je renvoie, on l'avait fait lors de la première émission, mais il faut que je pense parce qu'on le cite souvent, à l'excellente biographie Rainbow Man en deux tomes de Jérôme Souligny aux éditions Gallimard. Voilà.
C'est noté.
Il faut citer les gens qui nous ont influencés pour cette saga. On rappelle, Théo, que la saga, c'est surtout parler de l'homme et pas tant chroniquer les albums. Je suis pas sûr qu'on chroniquera un jour ce premier album d'ailleurs au demeurant. Et donc, qu'est-ce que dit ce premier album de David Bowie ? Eh bien que monsieur est déjà bien excentrique, c'est le moins qu'on puisse dire, et qu'il a une absence totale de limites formelles. Pourquoi je peux dire ça ? Ben parce que le bougre, dès son premier album, et alors que normalement tu essaies de trouver ton public, va se permettre une espèce de boogie-boulga pop, psyché, quasiment vaudevillien, quasiment musical. Je vous renvoie notamment à l'écoute dès la première piste de l'album. C'est assez osé, on va dire.
Et t'as justement une citation de Bowie qui évoque ce pot-pourri musical.
Oui, lui-même est assez réaliste par rapport à ça. Alors oui, toute ma période d'apprentissage est là, tout est libéré. Il m'a fallu beaucoup de temps pour trouver ce que j'ai fait. Je suppose que ce qui l'a rendu si difficile, c'est que je n'ai jamais été amoureux d'un seul style de musique et d'un seul type de musique. À ce moment-là en particulier, il n'était pas juste d'avoir un intérêt dans tous les domaines, c'était l'heure de se faire un esprit. On renvoie aux Kings, aux Beatles, etc., qui cherchaient tous effectivement à se calibrer en 67, quoi qu'encore les Beatles étaient partis assez loin, mais dans, chacun dans un style bien particulier.
Et cet esprit, Gauthier, pardon, il n'est pas forcément au goût de, du goût de Decca, sa maison de disques, qui malgré les critiques pas si mauvaise au demeurant, a un peu de mal à digérer ce premier album.
Oui, alors c'est parce que c'est un album très osé, mais qui n'est pas top, et effectivement Decca ne le sortira pas chez Decca, mais chez Durham, qui est le sous-label, on va dire, de Decca. Et tu dis une chronique à l'époque mitigée, je cite le magazine NME, un New Musical Express, par la plume de Alan Evans à l'époque, qui dira « Tout est très rafraîchissant, un talent très prometteur, hein, je cite toujours, et un peu plus loin, avec un son frais aux arrangements musicaux légers. Comprendre, c'est sympa, c'est assez intéressant, mais enfin, ça casse pas de pâte à canard non plus.
Ouais. » Alors, bon, il faut aussi rappeler que musicalement parlant, l'année 67 n'est pas la meilleure pour sortir un album lorsqu'on est un petit nouveau.
Et que tu te cherches en plus. Non, effectivement, l'album va faire un four absolu. Faut dire que la même année sort Sgt. Pepper's des Beatles, difficile de le concurrencer, mais également Are You Experienced de Hendrix, Flowers des Stones, pas le meilleur des Stones, mais quand même, le premier Soul Faces et tout, et je parle d'albums qui sortent quasiment le même mois, hein. Je vous fais pas toute la discographie de l'année 67. Donc bien évidemment des albums qui éclipsent complètement David Bowie et qui ringardisent même le style David Bowie, qui, pour prendre une comparaison avec quelqu'un dont on a parlé l'année dernière, Théo, en fait qui ressemble un peu à l'époque à un Gainsbourg des débuts, c'est-à-dire un militant style rive gauche, mais que personne ne comprend pas trop. Voilà. Mais Bowie a une certitude vissée au corps, c'est qu'à un moment ou un autre, ça va finir par passer, Théo.
Ouais. Comme dirait Michel Blanc, voilà. Sur un malentendu, ça peut marcher. Se regretter, Michel Blanc. Tu citais Gainsbourg il y a quelques instants. Il s'avère que comme lui, Bowie va se mettre à écrire et composer pour les autres.
Oui, et il marche là aussi dans les pas des Stones et des Beatles qui, à l'époque, l'ont déjà fait et ont fait leurs armes comme ça. Je vous renvoie notamment à l'émission qu'on avait fait sur Astier Goes By de Marianne Faithfull, première composition des Stones. Bowie va composer pour les Stones. Alors, Judy Collins laissera à la main, Jefferson Airplane non plus, des groupes assez connus à l'époque.
C'est pas rien.
Et c'est un chanteur assez peu connu, un dénommé Oscar Buzzelink, qui chantera l'une des premières chansons de David Bowie composée pour quelqu'un d'autre que David Bowie. Cette chanson s'appelle Over the Wall We Go, et c'est vrai que ça ressemble un peu à du Bowie. Over the wall we go, oh, coppers and others. Over the wall we go, leave them alone saying New Year. I know all the best ways to break out of here. I helped a young laddie called Ivan. I bundled him over the wall last night. Then he climbed back and he grabbed me tight. He uttered some words that I can't say to you, 'cause he remembered that he was a screw. Alors Théo, pour nos auditeurs qui ne te voient pas en direct, tu me disais ça fait musique de cirque. Je dirais que ça fait musique un peu d'opéra ou de théâtre vaudevillien. Et je rappelle, on en avait parlé lors de la précédente émission, que Bowie à l'époque fait beaucoup de théâtre et compose aussi un peu pour l'opéra, ou tout du moins pour le musical. Ben voilà. Et on a quand même toute la fougue créatrice et osée de David Bowie déjà.
Je te disais, musique de cirque et un peu médiévale.
Tu parlais des Monty Python.
Oui, c'est vrai.
Ça ferait une bonne 3, sacré Graal, effectivement.
Et étant donné les débuts chaotiques de Bowie, son label décide de ne pas le suivre.
Non, il jette l'éponge, effectivement, le label DECA. Et David Bowie sera auditionné par un néo-label qui vient de se créer à l'époque, le label Apple des Beatles, la pomme, la fameuse pomme.
Ça me parle.
Et qui jugera les qualités de David Bowie insuffisantes. C'est dommage, ça aurait quand même pu être très marrant.
D'avoir les Beatles.
Qui produisent David Bowie. Alors, bien évidemment, c'est pas les Beatles hein, qu'on
auditionne. Non, mais d'avoir.
Oui, mais ça aurait été marrant, oui, effectivement. La petite histoire.
Décidément, c'est voilà une plâtrée de gens qui ont le nez creux.
Le label Apple des Beatles, faudrait regarder, mais je leur connais pas de grands.
C'est-à-dire que les autres souffrent de la concurrence, peut-être.
Oui, mais je sais pas si les mecs à la tête de ce truc avaient le nez creux pour dégoter des talents, quoi.
Bowie, lui, en tout cas, ne lâche pas l'affaire et il va faire une rencontre fondamentale pour la suite de sa carrière, Gauthier.
Et ben, c'est le fameux Tony Visconti dont tu parlais dans ton édito, qui était à l'époque aussi le producteur de T-Rex. On en avait parlé lors de la première émission, un groupe qui à bien des égards pourrait être considéré comme les précurseurs du glam avant même David Bowie. Tony Visconti qui accompagnera David Bowie sur la quasi-totalité de sa discographie. Un homme important.
Ah, oui, c'est moins qu'on puisse dire. Et le jeune David va également commencer à fréquenter, comme on disait au siècle passé, et de ses fréquentations ressortira une femme qui ira même jusqu'à inspirer le titre d'un morceau.
Absolument. C'est une dénommée Hermione Fothingall, une danseuse classique, qui va vivre pendant un an avec David Bowie. Alors on pourrait ne pas la mentionner effectivement, parce que bien évidemment David Bowie aura bien d'autres conquêtes, mais il aura un mal fou à se remettre de cette rupture. Et effectivement, alors à vérifier, mais j'en suis quasi certain, et c'est Soligny aussi qui en parle dans la biographie, c'est la seule femme dont le nom figurera dans une chanson de David Bowie, une seule femme en tout cas réelle, c'est elle. Voilà, donc une rencontre non négligeable aussi à l'époque.
Et Gauthier, nous arrivons...
Une petite dernière rencontre, Théo.
Allez, vas-y.
Artistique. Le Velvet Underground, c'est à l'époque que David Bowie découvre la musique du Velvet qui aura une importance fondamentale pour lui, et notamment une chanson Waiting for My Man, banger absolu pour notre cher David Bowie, que vous entendrez très souvent dans des lives de Bowie, parce qu'il a reprené très souvent en live.
J'ignorais ça.
Waiting for My Man. Voilà.
D'accord. Et on arrive donc, je le disais, en 69, l'année d'Apollo 11, de Neil Armstrong, bref, l'année où l'homme a posé le pied sur la Lune. C'était le 21 juillet, mais au début de cette année, Bowie avait senti que quelque chose allait se passer dans l'espace.
Ouais, il est chez lui, il a une guitare 12 cordes entre les mains, on l'entend très très bien d'ailleurs sur Space Oddity, cette chanson, puisque c'est de Space Oddity dont on va parler, et David Bowie plaque les premiers accords de ce riff qui va être pour lui le premier riff vers la gloire. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. 3, 2, check ignition, 1. And may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. Now it's time to leave the capsule.
Bah oui, en voilà un tube.
Ah, ça oui.
Et alors Gauthier, on fait un tout petit retour en arrière parce que on va se la laisser en fond quand même parce qu'elle n'est pas désagréable cette chanson.
Malheureusement un peu longue pour notre format d'émission.
on fait un tout petit retour en arrière, disais-je, parce que à ce moment-là, Bowie joue avec ses mains. Mais elles ne tiennent aucun instrument.
Non, effectivement, à l'époque, David Bowie assure la première partie de T-Rex, encore eux,
ouais.
En tant que mime. Je ne sais pas dans quelle mesure, il n'y a pas que lui qui y croit à l'époque, mais bon, il le tente. Il y a une autre rencontre, bien évidemment, par contre, à l'époque, Théo, c'est la dénommée Angela Burnett aussi, qui va entrer dans sa vie. Pour beaucoup, ça sera la petite main derrière le grand homme, celui qui va lui permettre de se concentrer sur sa musique, qui va lui permettre de décoller, comme dans Space Oddity. Ils se sont mariés en moins d'un an, et il lui dédiera une chanson. Alors, il ne la cite pas dans le titre de la chanson, mais ça sera la sublime The Prettiest Star.
Angela Burnett, qui, soit dit en passant, on démonte un mythe musical, n'est pas la Angie
des Stones.
Voilà. Keith Richards l'a dit il y a quelques années dans son bouquin que tu as lu,
Life.
D'ailleurs, je crois.
Et qui est maculé de choses qui sont peut-être douteuses historiques, mais on va le croire sur
mais
parole.
Mais ça, on le croit. Gauthier, il faut quand même que tu nous parles de Space Oddity. Bah, franchement, c'est quoi ce morceau?
C'est un mythe, c'est une immense chanson, c'est le premier grand tube de David Bowie. Elle est composée à l'époque à la demande de publicitaire, entre guillemets, pour un petit film promotionnel à l'époque sur David Bowie. Non, mais qui doit s'appeler Love You Until Tuesday. Je cite à l'époque, il fallait un morceau de matériel très spécial qui démontrerait de manière spectaculaire l'inventivité remarquable de David Bowie et serait probablement le plus haut niveau de production. Well done, les gars, ça a marché, c'était une grande chanson.
Ouais, c'est clair. Et c'est surtout la rencontre avec...
De My Joe Tom.
Et ouais.
Voilà, c'est aussi, et c'est ça qui est important dans cette chanson, c'est pour ça qu'on en parle, parce qu'on parle de David Bowie initialement. C'est le premier personnage de David Bowie. On sait que plus tard, il va les multiplier, Ziggy Stardust, Alan Insane, etc., etc. Et ben là, celui que vous entendez, c'est pas David Bowie en principe, c'est le Major Tom qui parle
dans sa fusée.
Dans sa fusée, voilà.
Et ça s'invente pas, Gauthier, en pleine odyssée spatiale, Bowie va signer chez Mercury.
C'est grâce à Space Oddity.
Ah, j'ignorais. D'accord.
Là aussi, il y a une bonne blague avec
et
Mercury.
Et oui, Mercure, ouais. Voilà, pour nos amis non anglophones.
Et Freddie Mercury plus tard.
Ah,
mais oui.
Qu'est-ce que j'apprends à tes côtés.
Alors, ça n'a aucun rapport avec le label. Mais... C'est ce qu'on appelle, Théo, un homonyme. Et voilà, un autre savoir supplémentaire.
Et donc, du coup, Mercury va se débrouiller pour faire coïncider la sortie de la chanson avec l'alunissage.
Oui, mais ça ne marchera pas. En fait, le succès viendra des mois plus tard pour la chanson, notamment après un passage de David Bowie à l'émission Top of the Pop, où il assurera la première partie d'un autre groupe assez célèbre de l'époque, Humble Pie. Non pas comme mime, Théo, mais comme chanteur, c'est mieux, David, tu progresses. Il fera même à l'époque une série de concerts qui, selon les témoins de l'époque, Théo, toi et moi, nous n'y ont pas, une série de concerts en Écosse, en tête d'affiche, pour les témoins, pas ouf les concerts, mais ça avance,
ouais,
et
ça
oui, il est plus mime.
Et donc, cette même année, en 69, donc on le rappelle, Bowie sort un deuxième album. Tu peux nous rappeler le titre?
Alors, David Bowie, comme le premier album, et c'est d'ailleurs un album maintenant, les deux premiers albums s'appellent rigoureusement de la même façon, il est connu maintenant très souvent sous le nom de Space Oddity, l'album.
Ouais, ouais. Mais il s'appelait David Bowie.
Il s'appelait David Bowie, et c'est sur cet album, Théo, qu'on trouve la délicate Letter to Hermione.
The hand that wrote this letter sweeps the billow clean. So rest your head and read a treasured dream. I care for no one else but you. I tear my soul to cease the pain. I think maybe...
Et ce deuxième album de Bowie, Gauthier, qu'est-ce qu'il nous dit, hormis qu'il contient déjà un tube intergalactique?
Alors, c'est un David Bowie, effectivement, qui sait faire des tubes maintenant, et qui devient un peu plus classique. Alors, classique dans le sens où David Bowie brille toujours par son originalité, bien évidemment, des compositions extrêmement fournies et travaillées, mais il maîtrise un peu plus son sujet et donne un album plus, on va dire, compact, plus homogène. J'aime beaucoup d'ailleurs la chronique que le magazine Pitchfork en avait fait, je te la lis, Théo. Le jeune chanteur-guitariste acoustique derrière ses chansons a évidemment évidemment une montagne de charisme, un don pour les mélodies et un goût pour le langage de la science-fiction expérimentale, mais pas la moindre idée de ce qu'il faut en faire la plupart du temps. Il porte donc ses influences sur sa manche, Letter to Hermione, etc. etc. Voilà, un homme qui manifestement maîtrise de mieux en mieux son art, pas pleinement bien évidemment, mais il y a un mieux, incontestablement.
Et du coup, ce pauvre Bowie, qui a vraiment l'art de sortir ses albums au bon moment, va récolter un succès plutôt mitigé pour ce deuxième disque.
Oui,
pourquoi ?
C'est un nouveau bide incontestablement commercial, mais le pauvre n'est vraiment pas aidé. Le même mois de la sortie de cet album, on est en novembre 69, Théo, sort Arthur des Kings, hein, je passe le nom complet, le In the Court of the Crimson King, pardon, The King Crimson, un album monstrueux, le Led Zeppelin 2, peut-être le plus grand album de Led Zeppelin, un album de Creedence Clearwater dont je vous passe le nom Revival, mais dont est issu 49 Song, et je passe sur Abbey Road qui est sorti le mois d'avant. Bon, on est en 69, ouais. De toute façon, 67, 68, 69, c'est compliqué pour sortir un album quand t'es pas déjà connu.
Un dernier mot, Gauthier, sur l'image, parce que Bowie, c'était pas que du son, c'était aussi un artiste qui le visuel importait beaucoup. Parle-nous rapidement de la pochette de ce deuxième album.
Alors, l'illustration donc, de la cover originale au Royaume-Uni, c'est une vue, un portrait donc, de David Bowie qui est fait par le photographe britannique, Vernon D. Dewhurst, exposé sur une œuvre de l'artiste hongrois Victor Vasarely, avec des taches bleues, violettes, etc., sur un fond vert. Et la couverture arrière est faite par Underwood. Underwood, je vous rappelle, c'est ce pote d'école qui lui a pété la gueule et qui l'a rendu avec cette particularité d'œil, entre guillemets,
pseudo-véron. Voilà. Chers amis, cette émission touche à sa fin. On va se quitter en s'écoutant An Occasional Dream, sorti sur le deuxième album de David Bowie. Je vous rappelle que cette émission est à retrouver sur le site de Radio Présence, mais également sur toutes les plateformes de podcast disponibles. On se retrouve bien entendu la semaine prochaine pour la prescription. Une très belle semaine à vous, une très belle semaine à toi, Gauthier.
Salut mon cher Théo.
Salut.
Of Hessian and wood, and we talk with our eyes of the sweetness in our lives, and tomorrow's a rich surprise. Some things we could do. Still hold some ashes to me, an occasional dream. And we'd sleep oh so close, but not really close our eyes between the sheets of summer made in blue. Gently weeping nights. It was long ago, long ago, and I still can't touch your name, for the days of fate were strong for you. Danced your love for me. Your face in mine, I keep a photograph. It burns my wall with